Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Philippe Laburte-Tolerain.
Bonjour, donc dans le cadre de l'émission Point de mire, je vais recevoir aujourd'hui le professeur Giuseppe Conticello, qui est titulaire de la chaire UNESCO itinéraire culturel et religieux. Alors, je vous dis bonjour, cher ami, et je voudrais demander à Giuseppe, bon, comment s'est produite son admission à la chaire, mais avant qu'il nous parle de la formation qu'il a reçue à Troina, en Sicile, d'où il est originaire.
Écoutez, donc, merci d'abord de me recevoir. Je suis effectivement chercheur au CNRS au Centre d'études des religions du Livre, qui est un grand laboratoire spécialisé dans l'étude des trois monothéismes. Et je suis également titulaire de la chaire UNESCO pour le dialogue interculturel et interreligieux. La chose à noter peut-être à ce sujet, c'est que c'est une chaire commune au CNRS et à la Fondazione Oasi Città Aperta, Fondation Oasis Ville Ouverte, qui est une fondation qui a son siège à Troina, en Sicile, qui est ma ville natale.
Et c'est un endroit que j'ai eu l'honneur et le plaisir de fréquenter dernièrement avec un sentiment d'admiration, voire d'éblouissement, qui ne s'est pas démenti pendant les deux semaines que j'y suis resté. Alors, parlez-nous donc un peu de ce qui est à l'origine de cette institution.
Donc, la Fondazione Oasis Ville Ouverte, comme je venais de dire, c'est un institut polyvalent qui a son siège à Troina, en Sicile. Le fondateur, je pense que l'une des raisons pour lesquelles je suis là aujourd'hui, c'est aussi celle de parler du fondateur. Le fondateur, donc, c'est le père Luigi Ferrauto, qui est né à Troina en 1922, d'une famille de paysans d'origine très modeste. Il est né à 22, il a donc maintenant 85 ans. Tout le monde ne sait pas que Troina est une petite ville d'environ 10 000 habitants, située dans la partie interne de la Sicile, qui est, comme l'on sait bien, l'une des régions les moins développées de l'île.
C'est au centre de la Sicile aussi. Si je ne m'abuse, ça avait été la capitale choisie par les Normands au XIIe siècle.
Justement, nous avons donc Troina, T-R-O-I-N-A. Est une ville à 60 km de Catane, le centre de la Sicile, et la ville a effectivement eu l'honneur d'avoir été la capitale du royaume normand, le royaume du soleil, pendant environ 30 ans. Ensuite, la capitale est devenue Palerme.
Qui est plus connue que Troina, il faut l'avouer.
Absolument. Oui. Absolument. Mais on est là justement pour parler du père Ferrauto de Troina. Donc, comme je disais, le père Ferrauto n'a pratiquement jamais quitté sa ville natale. Si vous voulez, je peux peut-être dire un mot sur son profil biographique qui est fort intéressant.
Certainement, parce que le personnage est inséparable de cette réussite extraordinaire qu'est l'Oasis Ville Ouverte.
Donc l'Oasis, c'est une fondation, pour donner une idée de l'importance de cette fondation, c'est une fondation qui emploie actuellement environ 1000 salariés. Et à l'origine, donc, il y a le père Ferrauto, c'est un enfant du pays, a eu une carrière tout à fait, pour ainsi dire, ordinaire. À 11 ans, il entre au séminaire diocésain avec la volonté très ferme de devenir prêtre. Très tôt, par ailleurs, il ressent une vocation particulière pour les problématiques liées à la souffrance humaine et à l'émargination. Encore séminariste, il avait environ 22 ans, il a commencé à écrire un petit opuscule de conseils spirituels qui s'adresse en particulier à ceux qui avaient été prouvés par les conséquences de la Deuxième Guerre mondiale. Cet opuscule goûte de rugiada, comme on dit en italien, goutte de rosée,
oui.
Et le programme de la vie du père Ferrauto. À partir de ce moment, il a décidé de se consacrer intégralement aux plus faibles, comme il dit, à ceux qui sont en situation de détresse physique ou morale.
Oui, c'est ce qui m'a frappé en arrivant là-bas, d'ailleurs, c'est que effectivement, il dit la messe parmi les handicapés mentaux dont il s'occupe quotidiennement.
Justement. Voilà. Sa vocation, c'était les handicapés mentaux. L'avènement important à ce sujet s'est produit en 1949. C'était des années d'une grande religiosité mariale. À ce moment-là, il a guidé dans le diocèse la Peregrinatio Mariae. Il y a eu à cette occasion des rassemblements importants de malades et il a fait une découverte qui a marqué toute sa vie. Il a vu qu'en Sicile, il y avait beaucoup de handicapés et qu'en Sicile, il n'y avait pas un centre qui puisse les accueillir.
Il n'y avait pas d'hôpital psychiatrique.
Il n'y avait pas de centre pour les handicapés mentaux. Il y avait des centres un peu dispersés, mais il n'y avait pas un véritable centre, que ce soit une maison ou une famille, pour les accueillir. Mais alors, à partir de ce moment, il a conçu l'idée très ferme, très précise, de fonder un centre pour eux. En 1951, il commence à louer une petite maison dans laquelle il accueille environ 18 handicapés. À partir de ce moment, le centre s'est développé avec une vitesse qui a quelque chose d'extraordinaire. Actuellement, pour vous donner l'importance dont vous parliez d'ailleurs tout à l'heure, c'est un centre qui emploie environ 1000 salariés à Troina et qui constitue sans aucun doute l'élément le plus décisif au niveau économique pour la réalité locale.
Et de là, alors, il va passer à d'autres dimensions, si j'ai bien compris.
Avant de finir sur ce point, je veux quand même préciser que actuellement, il y a environ 400 handicapés qui viennent, bien sûr, de Sicile, mais également de toutes les régions d'Italie.
Oui, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de mouvements.
Et c'est d'ailleurs, et le centre a eu plein de reconnaissance au niveau international. Il collabore avec beaucoup d'institutions, avec des institutions des universités françaises également. En 1988, l'État italien, ça c'était une reconnaissance importante pour l'évolution du centre, a été reconnu comme institut de recherche à caractère national.
Sur le plan des maladies mentales.
Sur le plan de maladies mentales, tout à fait, l'handicap mental. Et en 1987, d'ailleurs, a été reconnu également par l'Organisation mondiale de la santé comme centre de collaboration, toujours dans le domaine de l'involution cérébrale.
Alors ça, l'OMS, c'est quand même important, oui.
Ceux qui veulent connaître un peu l'histoire de cet institut important et la vie de cet auteur, qui est sans doute l'une des figures charismatiques de notre temps, peuvent d'ailleurs se reporter au livre même du Père Ferlaoute. Il a écrit en 2005, maintenant il écrit pas mal, il a écrit ses mémoires, dans lesquelles il raconte l'évolution de ce centre, ça s'appelle l'Oasis de Troïna, un miracle en Sicile, ou sinon il a écrit également son autobiographie spirituelle, au titre un peu provocateur, « Je suis un prêtre qui croit en Dieu ».
Oui, et ça, ce n'est pas traduit.
Alors, ce n'est pas traduit. Tiens quand même à dire que, mais on en parlera peut-être par la suite, le centre L'Oasis a une importante maison d'édition qui publie des livres en plusieurs langues. Et il y a notamment l'un des livres qu'il avait rédigé à la suite des événements de 2001 qui a été publié également en français. Ça s'appelle « Lettre d'un prêtre aux puissants de la terre et aux hommes de bonne volonté ».
Le développement, ensuite, dans d'autres perspectives, s'est produit comment ?
La chose qui frappe beaucoup les visiteurs, c'est de voir l'ampleur des bâtiments, des réalisations, quelque chose qui relève en quelque sorte de l'utopie. Le Père Ferlaoute est, on peut dire, un penseur qui réalise ses utopies. Il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées, beaucoup d'autres qui vont être réalisées. Il est parti d'une réflexion, d'une urgence, aider ceux qui se trouvaient en état de détresse, les plus faibles, aider en particulier les handicapés mentaux. Petit à petit, il a évolué avec une problématique sur la diversité qui est également la diversité culturelle et religieuse.
Ah voilà.
Vous savez, nous sommes en Sicile.
Oui.
La Sicile a une histoire particulière. C'est au carrefour de plusieurs civilisations.
Oui.
Au Moyen-Âge, en particulier, c'est un fait assez atypique dans l'histoire. Les trois grands monothéismes, le judaïsme, le christianisme et l'islam, se sont côtoyés de façon souvent pacifique. Normalement, quand on parle de la Sicile, on pense à la grande période de tolérance du règne de Frédéric II, 12e, 13e siècle. Eh bien, le père Ferlauto a en quelque sorte une âme sicilienne. Évidemment, il a voulu renouer avec ce passé de dialogue, de contact entre les cultures et les religions. Petit à petit, il a mis en place une institution qui s'appelle Fondazione Oasis Villa Verde, dont la perspective, justement, est le dialogue, et le dialogue avec ceux qui appartiennent à une autre religion qui relève d'une autre culture. C'est un peu dans ce cadre, d'ailleurs, que la chaire UNESCO a été également instituée à Troïne.
C'est ça qui m'a frappé quand j'y ai séjourné, c'est de voir, par exemple, dans une des très belles salles dont on a une vue superbe sur les alentours, sur l'Etna devant soi, de voir évoquer toutes les grandes religions, l'islam, l'hindouisme, le bouddhisme, le christianisme, dans le même endroit, n'est-ce pas ?
Écoutez, le but de la Fondation, et je vais répondre aussi à votre question, le but de la Fondation est tout simplement, si on peut parler ainsi, d'aider les religions et les cultures à contribuer plus activement à une culture et à une éducation pour la paix à l'échelle internationale, de contribuer à la promotion du faible et des minorités, à l'apprentissage de la tolérance, des valeurs éthiques et de la solidarité dans le partage. Nous nous sommes donné des moyens un peu pour encourager cette perspective culturelle. Nous avons notamment créé une maison d'édition et une télé. La maison d'édition publie surtout des livres qui vont dans le sens du dialogue interreligieux. Nous avons également voulu, par exemple, en 2005, voulu célébrer à notre façon le 60e de la Fondation de l'UNESCO par une monographie qui est l'une des rares monographies qui existent sur l'UNESCO.
Pierre Cardin a révolutionné le monde de la mode et de la haute couture jusqu'au mobilier et à l'art contemporain. Et l'artiste est venu dans nos studios pour se raconter comme créateur, comme mécène, de sa jeunesse à son élection à l'Académie des Beaux-Arts. Et pour le clin d'œil, il raconte même qu'il a conçu les habits verts de plusieurs de ses confrères académiciens. Pierre Cardin, artiste, Pierre Cardin, mécène, et en outre, plusieurs interviews des lauréats des prix Pierre Cardin. Nous vous proposons en tout 3 émissions sur l'homme qui a fait entrer la haute couture à l'Académie des Beaux-Arts.
L'UNESCO, en liaison avec les activités de l'UNESCO, nous avons une maison d'édition qui fait des publications dans le sens du dialogue, du partage des cultures.
Mais c'est en italien surtout.
C'est en italien surtout, absolument, même si évidemment nous ne sommes pas fermés aux autres langues, le français et l'anglais en particulier. Et nous envisageons également des publications en français et en anglais.
Bon, parce que il faudrait peut-être pour les auditeurs dire ce qui existe en français, si vous voulez, on pourra le dire tout à l'heure ou maintenant, comme vous voulez. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé pendant le séjour que j'ai fait là-bas, dans le cadre du consortium des universités euro-méditerranéennes, c'est de voir qu'au fond, il y a ce que voulait réaliser Ferlauto, c'est-à-dire une vie commune entre personnes handicapées et personnes, je dirais, valides, n'est-ce pas ? Une symbiose entre les vieux et les jeunes, une entraide entre les gens qui peuvent payer cher et ceux qui ne peuvent rien payer, vous voyez, parce que j'ai l'impression que ça sert cette cité ouverte de l'Oasis, ça sert d'hôpital. Il y a un ensemble de gens qui viennent donc de toute l'Italie et qui sont assez fortunés et qui permettent d'entretenir ceux qui le sont moins. De même que dans les ce que j'ai vu parmi les employés, en particulier parmi les jardiniers, c'est qu'il y avait un certain nombre de handicapés qui avaient été embauchés là, qui sont capables de faire des travaux à leur mesure et par conséquent de contribuer à l'entretien de ces jardins, parce que il faut dire que il y a un aspect d'hôtel de luxe qui doit permettre aussi d'entretenir les gens qui ont besoin d'être aidés et de subventionner les constructions du village, je dirais, de paix et d'entente que le père Ferlauto continue de bâtir, parce que ça n'arrête pas les bâtiments là-bas.
Ça n'arrête pas, comme vous dites. Oui. Vous voyez, l'idée un peu fondamentale du père Ferlauto, c'était de ne pas créer simplement un centre d'accueil, mais donner une famille à ces gens qui avaient été défavorisés au départ par la nature. Et l'idée fondamentale, d'ailleurs, c'est de les faire vivre dans une famille et comme dans une famille, de les réinsérer de nouveau dans la société. Vous voyez, moi, j'ai grandi à Troïne jusqu'à l'âge de 20 ans. Et alors, une chose qui fait totalement partie du paysage, c'est de voir les handicapés qui se promènent en ville.
Oui, ça j'ai beaucoup apprécié, et qui se promènent aussi dans les jardins. Et j'ai apprécié, d'ailleurs on aperçoit les maisons où ils vivent en famille, il y a des moniteurs, il y en a un pour trois ou quatre, n'est-ce pas, ou des monitrices, et qui s'occupent d'eux d'une façon très, très maternelle, très affectueuse, n'est-ce pas. Ça c'est, je pense, le thème principal, un des thèmes principaux du père Ferlauto, c'est que c'est avant tout l'amour qui compte dans la vie, et que c'est à travers cette affection qu'on se témoigne qu'on peut établir un véritable dialogue en profondeur et faire un cadre de vie qui permet à tout le monde d'être heureux finalement.
Le père Ferlauto est convaincu que pour être heureux, il faut vivre ensemble. C'est un peu la perspective de la ville ouverte. Les forts peuvent donner beaucoup aux plus faibles. Et alors, tout est fait, la structure elle-même est faite pour encourager cette vie ensemble. Vous disiez justement les jardiniers. Effectivement, beaucoup de jardiniers sont des handicapés qui ont trouvé une insertion dans la société, qui vivent normalement. Souvent, ils se sont mariés, ils ont constitué, ils ont fondé un foyer, ils ont fondé une famille. Mais toujours en liaison, en contact avec celle qu'on peut appeler la maison mère.
Oui, ça. C'est pour ça que l'atmosphère est très particulière là-bas. Et puis, un autre côté dont j'ai déjà parlé, c'est ce qui m'a frappé, c'est justement l'œcuménisme. Le père Ferlauto est sicilien, c'est-à-dire italien, c'est-à-dire très ouvert sur l'art de plastique, la sculpture, etc. Donc, sa galerie, les salons, les couloirs sont peuplés d'œuvres d'art de toutes sortes. Il y a de l'art extrêmement moderne et aussi des œuvres beaucoup plus classiques. Et c'est très amusant de voir ce voisinage.
Vous voyez, je pense qu'à ces niveaux, précisément, il y a un peu le côté grand seigneur italien. Un homme qui a consacré sa vie aux activités de charité, mais qui quand même ne néglige pas d'encourager le développement de la culture, de l'art et de la culture. Il y a effectivement une partie importante des activités du père Ferlauto qui est finalisée à cela, parce que, en parlant de handicapés, il a voulu, comme il dit lui-même dans ses mémoires, il a voulu donner un cadre de vie à ces malheureux qui soit un cadre de vie beau.
Oui, ça, c'est magnifique. Alors, je veux dire, c'est amusant de voir à la fois lui-même vivant dans une très grande austérité, puisque j'ai été reçu chez lui à déjeuner, etc., et avec ses jeunes Mongoliens, et d'un autre côté, de voir qu'il a voulu, par exemple, que l'église incorporée dans son hôtel 4 étoiles, n'est-ce pas, soit extrêmement confortable. Il a mis des sièges de cinéma en disant qu'il n'y a pas de raison qu'on soit plus mal assis à la messe qu'on l'est ailleurs. Et il est vrai d'ailleurs que la messe par elle-même est un drame, n'est-ce pas, qui se revit. C'est la réplique du sacrifice du Christ. Et donc, c'est quelque chose aussi, un élément de spectacle. Mais enfin, cette chapelle est magnifique, parce que on est à la fois dans un amphithéâtre confortable et puis avec de très belles œuvres d'art, et de même en plein air, il a conçu des séries d'oratoire spectaculaire, n'est-ce pas, où on peut aussi l'été sûrement faire des cérémonies magnifiques.
Il y a une quête constante du beau, de la beauté.
Oui, c'est ça.
Toujours au service des autres, les plus malheureux. Et je vais vous dire même en détail, c'est souvent lui-même qui a conçu les salons, les meubles, les chaises, parfois les salles. Il a un goût pour la création avec un très haut profil artistique.
Oui, c'est ce qu'on m'a expliqué, que les décorations même des chambres sont sous son contrôle et souvent il a des idées pour des éclairages indirects. Je dois dire que dans une chambre de cet hôtel, là où j'étais, n'est-ce pas, il y avait des éclairages indirects qui étaient très beaux, des panneaux qui s'éclairaient par derrière. Tout cela était de très bon goût, très original. Et en même temps, ça introduit dans une espèce de joie de vivre que j'ai beaucoup apprécié personnellement.
Le père Ferlaout, on peut dire, qui a fait vraiment culture, pour ainsi dire, à Troïna. Vous savez, Troïna, c'était une petite ville de paysans, un petit centre agricole. Assez pauvre, relativement pauvre, où tout était simple. Lui, il a introduit un style qui a maintenant modifié un peu le style général, le style de la ville. Souvent, pour les maisons, les gens s'inspirent de lui.
Oui, mais il a fait quand même un ensemble avec, par exemple, une piscine intérieure, avec des parties de la maison. Il y a une section pour un séminaire, il y a une section pour les congrès internationaux avec tous les systèmes les plus modernes de vidéoconférence, n'est-ce pas ? Il y a une succession de salles qui peuvent contenir 500, 800, 1000 personnes peut-être, quelquefois. C'est absolument spectaculaire. Et lui-même dit que c'est un miracle. Enfin, il a simplement toujours eu confiance en la Providence et ses grandes difficultés se sont résolues de façon inespérée. Par exemple, c'est sûr que son œcuménisme n'était pas à la mode quand il a lancé tout de suite après la guerre.
Le père Ferlaout, c'est surtout un homme de foi. Je le connais bien. Je suis souvent avec lui et je suis toujours frappé par sa foi et sa sérénité. Vous voyez, effectivement, comme vous dites, tout ce qu'il a réalisé à Troïna, ça relève du miracle, du miracle. Lui-même, il raconte. D'ailleurs, dans son autobiographie, l'Oasis de Troïna, un miracle en Sicile, son parcours. Et c'est très intéressant de lire effectivement ce livre parce que c'est surtout un document, avant tout, je dirais, un document spirituel. C'est un homme d'une grande spiritualité qui a réalisé ce qu'il a réalisé au service des autres.
Oui. Et ça, pour avoir une idée de ce que c'est, il faut vraiment y aller, c'est pas parce que... Il y a, par exemple, cette grande galerie qui est en face de l'Etna, et qu'il a appelé, je crois, le paquebot, quelque chose comme ça. En effet, on a l'impression...
Le transatlantique.
Le transatlantique, c'est ça. Le transatlantique, c'est magnifique. J'ai eu la chance d'arriver le soir, et il y avait une éruption du Vésuve. C'était absolument féerique, parce qu'on voyait surgir, n'est-ce pas, ces flammes, ce magma en fusion, n'est-ce pas, devant ces fauteuils de bateaux, de transatlantique. Et on avait l'impression de naviguer vers l'infini, n'est-ce pas?
Le site est magnifique, c'est la Sicile, bien évidemment, le site est magnifique. Mais la chose peut-être importante pour nous, c'est de souligner à quel point l'action du père Ferlaout a modifié la réalité locale. Je disais tout à l'heure que Troïna, c'était un petit centre agricole. Oui. Maintenant, vous en êtes témoin, est devenu un centre international, de rencontres internationales. Il y a tout le temps des congrès, des colloques. Oui, et évidemment, tous les locaux, toutes les salles servent évidemment à cela. Moi, je dis souvent, moi je suis né à Troïna, mais je vis à Paris, comme vous savez. Moi, je dis souvent qu'à Troïna, je rencontre presque plus de monde qu'à Paris.
Oui, parce que c'est un lieu de rencontre. D'ailleurs, la revue que Madame Pellegrin et vous-même peut-être avez lancée s'appelle In Country, c'est-à-dire rencontre. Hein, c'est un lieu de rencontre. Et donc, On est très sensible à ça, mais effectivement, il y a un mouvement perpétuel autour de l'Oasis, hein, avec la ville, avec. Cela dit, c'est quand même assez loin de Catagne. Il faut beaucoup
il y a
de
un
temps.
Moment...
faut prendre une route de montagne. Et je vais vous dire, j'ai eu des difficultés, même en ville, on ne trouve pas facilement des cartes postales. C'est pour dire à quel point c'est peu touristique d'un certain côté. Tant mieux.
Pourtant, oui. Il y en a pas mal de cartes postales. Ouais. Il faut évidemment savoir où les chercher. C'est un petit centre, bien sûr. Mais c'est un centre à un moment perpétuel, comme vous disiez, parce que cela tient à l'idée même de la ville ouverte. Vous savez peut-être que l'Oasis tient à exporter cette idée, qui est tout simplement peut-être une nouvelle édition de l'Évangile. Tient à exporter cette idée et l'Oasis a donc déjà des antennes au Brésil, va avoir bientôt des antennes au Cameroun et dans d'autres pays, en Chine et dans d'autres pays d'Afrique.
Eh bien, on lui souhaite alors une très belle expansion et je crois que nous allons nous en tenir là. Merci beaucoup et au revoir, chers auditeurs.